J'aimerais avec vous ouvrir la Bible dans les Actes des Apôtres au chapitre 26. Actes des Apôtres, chapitre 26. Et nous lirons à partir du verset 13. Paul est devant Agrippa, il doit argumenter pour sa défense. On ne va pas lire à partir du premier verset, mais l'apôtre Paul va, parmi les différentes choses qu'il va dire, il va raconter eh bien, ce qui s'est passé pour lui le jour de sa conversion, alors qu'il partait sur le chemin de Damas. Verset 12, on va lire, « C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Nous allons nous arrêter particulièrement sur une expression que nous trouvons verset 14, lorsque le Seigneur va dire à Paul, appelé encore à ce moment-là Saul, Saul de Tarse, il deviendra l'apôtre Paul, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Il y a à peu près une quinzaine de jours, j'ai eu à cœur, sachant que je serai avec vous ce dimanche, à cœur de partager cela avec vous ce matin, regimber contre les aiguillons. Il n'y a pas dans la Bible une biographie précise et complète, j'allais dire, de la vie de l'apôtre Paul avant et après sa conversion. On a néanmoins plusieurs récits de lui, ses épîtres, et puis plusieurs passages, plusieurs chapitres de ses parcours, de sa conversion et de ses parcours missionnaires qui sont relatés dans les Actes des Apôtres. Et tout ceci forme comme un puzzle. On prend ainsi de ce qui est dit de lui dans les épîtres et ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres. Et on arrive quand même à avoir une vue d'ensemble nous faisant comprendre qui est Paul, appelé à ce moment-là Saul de Tarse. Et cela eh bien, nous aide à comprendre pourquoi aussi le Seigneur lui a dit cette phrase qui peut nous interroger, « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons ». Comprenons qui est Paul pour mieux comprendre ce que le Seigneur a à lui dire. Nous savons que quand le Seigneur a quelque chose à dire à quelqu'un, il s'adresse à lui particulièrement, sachant que ce qu'il va lui dire va toucher particulièrement son cœur par rapport à ce qu'il vit, par rapport à ce qu'il est. Une même parole peut-être ne va pas toucher quelqu'un, mais quelque chose va interpeller une personne parce que ça correspond à ce qu'il vit actuellement, ça correspond à sa personnalité, ça correspond à son parcours de vie. Et quand Jésus dit à Paul, il te serait dur de regimber contre les aiguillons, cela résonne dans le cœur de l'apôtre Paul. Comprenons aussi ce que veut dire regimber contre les aiguillons. C'est ce que c'est qu'un aiguillon, c'est un bâton pourvu d'une pointe au bout qu'utilisent encore certains fermiers pour faire avancer leur animal, que ce soit un bœuf, que ce soit un mulet, que ce soit un cheval, un âne, bref, quand l'animal ne veut pas avancer, alors il est piqué sur le flanc avec cet aiguillon et l'animal est bien obligé d'aller dans le sens que le fermier, que le berger veut le faire aller dans le sens. Et donc, l'animal peut se regimber, c'est-à-dire se cabrer. Un animal qui se regimbe comme un cheval, comme un âne, il va se cabrer lorsqu'on va utiliser l'aiguillon et qu'il ne veut pas, mais il va être obligé quand même d'aller dans le sens, de gré ou de force, dans le sens que le gardien, que le berger, que le fermier veut qu'il aille. Ainsi, ça voudrait dire quand même qu'il y a eu des aiguillons dans le parcours de Paul qui voulaient aller le faire aller dans un sens. Cela laisse à penser quand même qu'avant même sa conversion, il y a eu comme quelques aiguillons qui voulaient faire avancer Paul vers la personne de Jésus. Mais celui-ci se cabrait, celui-ci résistait, regimbait, se rebellait contre ça, refusait dans son entendement, refusait dans ses pensées, refusait d'admettre que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais vous savez, Dieu a toujours le dernier mot. Il a eu le premier mot et il aura le dernier mot. D'autres récits de sa conversion se trouvent dans les Actes des Apôtres, notamment au chapitre 9 et au chapitre 22. On peut aussi, dans les Épîtres, trouver quelques informations supplémentaires sur sa conversion. L'apôtre Paul parle de ce qu'il était avant de connaître Jésus. Il parle qu'il a été saisi par Jésus-Christ. Il parle de la violence, de la rage qu'il animait, de cette menace qui était dans son cœur, de cette haine qu'il avait vis-à-vis des chrétiens et de l'Église de Jésus à ce moment-là, avant cette rencontre. Le premier aiguillon qu'on peut trouver, parce qu'il y en a plusieurs, il te serait dur de regimber contre les aiguillons, c'est de reconnaître que Jésus est vraiment le Messie. Comprenons bien, et l'apôtre Paul le dit, que en tout bon juif, l'apôtre Paul a grandi dans la connaissance des Écritures. Il connaissait, il était instruit dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est-à-dire la première partie de la Bible. Il la connaissait. Tout enfant, surtout les garçons, devait connaître, de la Genèse jusqu'à Malachie, il devait connaître. Il connaissait bien les Écritures. Il connaissait bien les écrits des prophètes qui parlaient de la venue du Messie. Il connaissait bien aussi les psaumes de David et les autres psaumes dans lesquels plusieurs psaumes sont prophétiques et annoncent la venue du Messie, donnent des détails sur Jésus. Et puis, sans parler de la Torah, et puis Moïse qui avait annoncé la venue de Jésus déjà. Tout cela, eh bien, font partie de ces aiguillons. Et l'apôtre Paul, donc, avant sa conversion, il avait à ce moment-là une trentaine d'années, avait eu déjà des témoignages des chrétiens. On voit même qu'il parle dans certaines épîtres, notamment dans les Romains, que certains de sa famille étaient convertis avant lui. Ça a dû l'embêter quand même. Ça a dû l'enrager. comment des membres de ma propre famille se convertissent à Jésus, mais pour lui c'était impensable, inimaginable. Et puis, l'apôtre Paul a aussi dû entendre parler de Jésus parce que l'apôtre Paul avait une trentaine d'années à ce moment-là, au moment de sa conversion, il avait environ une trentaine d'années. Ce qui veut dire quoi? Il n'y avait pas longtemps que Jésus avait été crucifié puis ressuscité. Donc l'apôtre Paul était un contemporain de Jésus. L'apôtre Paul, même s'il n'a pas rencontré physiquement Jésus, tout le monde dans la Judée, tout le monde dans la Galilée, tout le monde avait entendu parler de Jésus, de ses miracles qu'il faisait, de ses discours, de tout ce qu'il produisait dans le cœur et dans la vie des personnes. Il avait entendu parler de cela. Il ne pouvait pas faire autrement que de l'entendre parler. Et puis, l'apôtre Paul avait mis en prison beaucoup de chrétiens et même participé à la mort de quelques-uns. Connaissant le zèle des premiers chrétiens, connaissant leur témoignage, la puissance qui les animait par le Saint-Esprit, il est certain que ces chrétiens avaient témoigné de leur foi et que l'apôtre Paul l'avait entendu. L'apôtre Paul a été élevé au pied de Gamaliel, il en parle. Depuis son enfance, il avait été instruit, il y avait un maître, un rabbi, qui l'avait enseigné dans les Écritures, qui s'appelait Gamaliel. Gamaliel était chargé d'instruire les enfants et les jeunes hommes dans les Écritures, les écrits prophétiques, comme je le disais tout à l'heure. C'était une référence, un homme de confiance pour Paul, une référence en la matière, et il nous est dit que cet homme était respecté du peuple et du Sanhédrin. Quand Gamaliel disait quelque chose, ça avait une portée, ça avait une autorité. Or, quand nous lisons au chapitre 5, lorsque Gamaliel va intervenir auprès du Sanhédrin, parce que enfermé Pierre en prison et à un moment donné, donc Gamaliel va intervenir. Gamaliel était un homme, estimé, respecté. Au chapitre 5, verset 34, il nous est dit que Gamaliel était un docteur de la loi, estimé de tout le peuple. Il se leva au sein du Sanhédrin. L'apôtre Paul fait partie du Sanhédrin, il faut bien comprendre ça. Il a entendu ce maître qu'il connaît depuis son enfance, une référence, dire ce qu'il va dire. Et il dira un peu plus loin, « Ne prenez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Comment ? Pour lui, c'est inimaginable. Pour Paul, il faut combattre contre ça. Il faut combattre contre le christianisme, il faut combattre contre l'évangile, il faut combattre contre le message de Jésus. Mais comment un tel homme, une référence en la matière, dise au verset 39, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Est-ce que ça voudrait dire que Gamaliel n'arrive pas à se positionner, que peut-être les chrétiens auraient raison, qu'il ne sait pas. Ça veut dire que Gamaliel est lui-même en réflexion par rapport au message de l'Évangile, au message de Jésus-Christ, au message de ces chrétiens qui témoignent de leur foi en Jésus. Ça, c'est un aiguillon encore dans le cœur de l'apôtre Paul. Et puis, comment ne pas parler d'Étienne ? Comment ne pas parler d'Étienne ? On ne va pas lire les deux chapitres suivants, le chapitre 6 et le chapitre 7, qui nous relatent l'épisode d'Étienne. Étienne, un homme rempli du Saint-Esprit, il prie, les malades sont guéris, il prêche l'Évangile, il donne secours aux malheureux, aux déshérités, il est là, un homme de cœur, un homme que le Sanhédrin va saisir. L'apôtre Paul fait partie du Sanhédrin. Il écoute ce que dit Étienne. Comme les autres membres du Sanhédrin, il entend les arguments d'Étienne, irréfutables. Il s'appuie sur les Écritures, il s'appuie sur les écrits des prophètes. Il parle de Moïse, il parle de l'histoire d'Israël. C'est irréfutable. Personne n'arrive à le contrer. On ne peut pas résister à la sagesse par laquelle il parle. Au chapitre 6, verset 10, il est dit, il ne pouvait, c'est-à-dire qui, le Sanhédrin, tous ceux qui étaient là, il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Ils voulaient le contredire, mais c'était peine perdue. Ils n'arrivaient pas. Personne ne pouvait résister à la sagesse dont il faisait preuve, animé par le Saint-Esprit. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 12 et au verset 13, il est dit que les paroles des sages sont comme des aiguillons. Tiens, ça nous fait penser à cet aiguillon qu'on parlait. Ecclésiaste 12, 13, les paroles des sages sont comme des aiguillons. Et ces paroles que disait Étienne étaient comme des aiguillons qui pouvaient commencer à faire penser. Et si les chrétiens avaient raison, il a entendu ces témoignages, la parole de Gamaliel, les membres de sa famille qui se convertissent, entendu parler de Jésus, de ses miracles, ça devait commencer à bouillonner dans le cœur de l'apôtre Paul. Et puis, comme tout le monde, l'apôtre Paul a vu le visage d'Étienne rayonner. Au verset 15, il est dit, « Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. » Paul fait partie du Sanhédrin. Il voit ça, il entend et il voit. Seulement, quand on lit la fin du chapitre 16, ils ont fermé leurs oreilles, ils ont crié de rage. Vous savez, quand on refuse le témoignage, quand on est déstabilisé dans son cœur, c'est un ferment du fanatisme. Et il est prouvé que les fanatiques sont ceux qui ne sont pas sûrs. Et donc, pour se rassurer eux-mêmes, ils s'enferment dans un fanatisme. Et l'apôtre Paul, plus ses aiguillons étaient là, qui le titillaient, l'emmenant vers Jésus-Christ, plus il s'enrageait, plus il était violent, plus il mettait à mort les chrétiens, plus il les mettait en prison. Il s'était dans ce but-là qu'il allait à Damas. Il voulait même les poursuivre à l'étranger, en dehors du territoire d'Israël. Il voulait, et il pensait servir Dieu en plus. Te serait dur de regimber contre les aiguillons. Il y a des témoignages. Il y a des choses. Il y a des paroles que Dieu a faites. Témoignage de notre conscience, témoignage de la création, témoignage des Écritures, témoignage de ceux qui ont vécu quelque chose avec le Seigneur. Et il y en a encore qui refusent l'évidence. L'apôtre Paul a été saisi par Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Puissions-nous, dans notre cœur, capituler une fois pour toutes devant celui qu'on a chanté tout à l'heure, présenté comme l'agneau de Dieu, celui qui est monté sur la croix, celui qui est ressuscité. Oui, Jésus est ressuscité. Il est celui qui nous a rachetés, il est celui qui nous délivre de la puissance du péché, il est celui qui nous libère, il est celui qui peut guérir les malades, alléluia. Ne refusons pas ce témoignage que Dieu donne de lui-même, ne refusons pas l'évidence. Plus nous allons résister, plus nous allons nous enfermer dans des doutes, dans une déstabilisation, voire peut-être dans la colère, dans le fanatisme. Ne rejoignons pas contre les aiguillons. J'aimerais m'arrêter sur un deuxième aiguillon et je vais m'y arrêter un peu plus longuement. Si le premier aiguillon, c'était tous ces témoignages que Paul a reçus de ses chrétiens, d'Étienne, des Écritures, qui prouvent que Jésus est vraiment le Messie et qui le conduisait vers le Messie, vers Jésus, le reconnaître comme le Fils de Dieu, si cet aiguillon-là voulait l'amener à cela et qu'il regimbait, mais il a quand même fini par l'accepter, il y a un deuxième aiguillon qui, lui, est d'ordre moral, qui touche sa conscience. Comprenons bien qui est Paul. C'est un pharisien. Pharisiens, c'était une secte juive très radical, conservateur, des hommes qui vraiment essayaient de suivre à la lettre la Torah et puis tout ce qu'ils avaient rajouté aussi, et la tradition des hommes, hein. Ils en avaient rajouté en pagaille. Des hommes qui se prenaient aussi pour l'élite d'Israël, des hommes donc imbus souvent de leur personne, pas tous, mais souvent. L'apôtre Paul était de cette trempe-là. Il avait, comme je le disais tout à l'heure, grandi dans ce milieu-là, enseigné, non seulement dans les Écritures, mais dans cette pensée-là, dans cette mentalité-là. L'apôtre Paul parle de ses premières années et il s'efforçait à être trouvé juste devant Dieu par leurs actes de piété. Ainsi, on a cette parabole du pharisien et du publicain, de ce pharisien qui est là, bien habillé, en bon religieux, et qui est en train de louer le Seigneur, « Je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Voilà, il se prenait pour l'élite, comme je le disais, et il fait l'étalage de tous ses actes de piété. Donc, il pense qu'il est juste, il essaye de s'en convaincre, parce que cet homme accomplit tous ses actes de piété, même il peut en rajouter. Or, il y a la loi de Moïse. Aucun religieux. Il y a quelques années de cela, c'était avant qu'on parte en Tunisie, j'avais été invité à une discussion entre juifs, il y avait des rabbins qui étaient là, et puis des chrétiens qui témoignaient de leur foi, et puis on confrontait les Écritures. Et à un moment donné, la question a été posée, et ils n'ont pu répondre que ce que l'on savait déjà par rapport à la loi de Moïse. On sait que si on se rend coupable d'un seul commandement, on se rend coupable de tous. Or, la question a été posée à un moment donné, est-ce que il est possible à un homme ou une femme d'accomplir toute la loi de Moïse afin d'être trouvé juste devant Dieu. Ils ont été gênés un peu aux entournures. Et ils ont été obligés d'admettre, non, ce n'est pas possible. Donc nous avons ce témoignage, non pas de la part de chrétiens, mais de personnes qui ont une responsabilité religieuse au sein du judaïsme, qui n'a pas changé. Il est impossible à un homme, à une femme, d'obéir à toute la loi qui nous a été transmise par Moïse. Or, si on se rend coupable d'un seul commandement, on se rend coupable de tous, comme cela est écrit. Alors, parmi cette loi, il y a les fameux 10 commandements. Quand bien même l'apôtre Paul arrivait à obéir aux 9 premier commandement, quand bien même, parce qu'il n'y en a pas que 10, hein. Ça c'est les 10, j'allais dire, capitaux qui ont été inscrits sur les tables de la loi, mais quand bien même, il y a le 10e. Que nous dit le 10e ? Tu ne convoiteras point. Alors, ne pas tuer, ça va. Ne pas voler, on peut arriver à ne pas voler, etc. Tu ne convoiteras point. Ça touche les pensées. Et c'est incontrôlable. C'est incontrôlable à l'être humain. Il a beau essayer de se raisonner, il a beau essayer de se mettre en condition, essayer de faire tous ses efforts, et tu ne convoiteras point, ça touche l'intérieur du cœur humain et qui montre que le cœur de l'être humain est incapable de se libérer du péché qui est à l'intérieur de lui et qu'il lui faut autre chose. Or, que dit l'apôtre Paul après sa conversion? L'apôtre Paul, son message, son ministère a été marqué par sa rencontre avec Jésus. Il dira ceci, la loi a été comme un pédagogue qui nous conduit à Christ. Tiens, c'est comme ces aiguillons qui nous conduisent à Christ. La loi a été comme un pédagogue qui nous conduit à Christ. Il le dit dans Galates chapitre 3, verset 24, pour ceux qui prennent des notes. J'aimerais lire avec vous dans 1 Corinthiens 15, verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ce qui donne la force à cet aiguillon, c'est la loi. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce verset 57, il ne le connaissait pas encore, l'apôtre Paul. C'est lui qui l'a écrit. Mais avant sa conversion, il ne savait pas que la victoire était en Jésus. Comprenez bien qu'il y avait cet aiguillon là, cet aiguillon de la mort, c'est le péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Le péché nous conduit, comme là avec cet aiguillon, il nous conduit à la mort. Or, l'apôtre Paul voulait être libéré de cela. L'apôtre Paul, en bon pharisien, s'efforçait à être trouvé juste devant Dieu pour être sauvé par ses actes de piété, pour être sauvé par ses actes d'accomplissement de la loi. Mais voilà, il lui est impossible. Et toujours sa conscience qui l'accuse, toujours ses convoitises à l'intérieur. On ne peut pas être libéré comme ça. Il a entendu le témoignage des chrétiens. Il a entendu ce que proclament les chrétiens. Il a entendu ce que dit Étienne. Il connaît les Écritures, il connaît les prophètes. Il sait que le Messie va nous délivrer du péché. Il le sait, il l'a entendu, il sait que la victoire appartient à Jésus-Christ. Et ça, cet aiguillon-là qui le conduit à Christ, il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Dans Romains chapitre 7, prenons bien le message de l'apôtre Paul qui a compris quelle est la puissance du péché, mais qui a compris qu'il y a une puissance supérieure, celle de Jésus. Il faudrait lire tout le chapitre 7, mais l'heure tourne, on ne va pas le faire. Verset 1er, « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » On va passer au verset 7. « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. » Car je n'aurais pas connu la convoitise, 10e commandement, tu ne convoiteras point. Si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Là, il suffit de dire à un enfant, touche pas ça, pour qu'il y touche. Hein. On ne lui aurait rien dit, peut-être qu'il n'aurait pas eu d'idée. Mais le père, quand on lui dit à un enfant, ne touche pas ça, ça va le démanger, il va essayer d'y toucher. Hein. Comprenons que la loi donne de la force, hein, donne de la force au péché. Hein. Tu ne convoiteras point, verset 8. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. On va passer au verset, on va lire jusqu'au verset 11. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. On va passer au verset 13. Ce qui est bon a donc... Excusez-moi, a-t-il donc été pour moi une cause de mort, loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort, par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que par la loi, que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, et je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? On pourrait s'arrêter là, il n'y a plus d'espérance. Mais l'apôtre Paul dit en suivant, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Comprenons bien ce que dit l'apôtre Paul ici, c'est qu'il y a sa conscience, il y a la loi qu'il connaît, et il sait pertinemment ce que la loi dit et ce que lui, il fait. C'est un pharisien, faites ce que je dis, pas ce que je fais. On pourrait résumer, c'est ce que leur dira Jésus, hein. Faites ce que je dis et pas ce que je fais. Leurs paroles sont bien, mais leurs actes montrent qu'ils eux-mêmes se contredisent. Parce qu'il est impossible à l'être humain, il est impossible d'être trouvé juste devant Dieu par l'accomplissement de la loi ou par l'accomplissement d'actes de piété, d'actes religieux. Toujours la conscience accuse. Je veux faire ce qui est bien, mais le mal est attaché à moi. Il dira même, je fais ce que je n'aime pas, ce que je hais. L'apôtre Paul ne voudrait pas faire ce qu'il fait, mais il le fait. Il n'a pas la possibilité de s'en sortir. Oui, il y a bien ces chrétiens qui disent que la victoire est en Jésus. Il y a bien ces chrétiens qui disent qu'on peut être délivré de cette puissance par Jésus. Mais lui, il regimbre contre ça. Il ne veut pas ça. Il y a bien des personnes qui ressemblent à l'apôtre Paul. Ils vont essayer tout un tas de méthodes psychologiques ou pseudo-psychologiques. Ils vont essayer toutes sortes de choses. Ils vont aller voir des médiums, ils vont aller voir des sorciers, ils vont aller voir des marabouts. Mais toujours, 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 ils sont pris par certaines choses. Ils sont pris dans leur cœur, ils sont pris par la convoitise, ils sont pris par le péché, par des passions, par des vices. Ils sont là jusqu'au moment où ils capitulent devant Dieu. On a beau leur dire... Prie le Seigneur, prie Jésus, il te délivrera, mais ils n'en veulent pas. Et ils s'enfoncent de plus en plus. Plus ils refusent, plus ils s'enfoncent. C'est comme un animal qui se câble. Ça lui fait mal, l'aiguillon lui fait mal, mais il refuse. On en a connu comme ça. Malheureusement, qui refuse le message de l'Évangile, qui refuse d'aller dans le sens, qui refuse de prendre la victoire. Et il s'arrête au verset 24, « La misérable que je suis, qui me délivrera de corps de cette mort ?» Ils en arrivent même à dire, « Mais je suis misérable. Je suis tenu par une passion, je suis tenu par un vice, je suis tenu par l'alcool, je suis tenu par la pornographie, je suis tenu par la drogue, mais je ne peux pas m'en sortir. Je suis tenu par la colère, je suis tenu par la haine. » On pourrait allonger la liste. Qui me délivrera ? Jésus. Oui, mais j'en veux pas de Jésus. Il ne veut pas de Jésus. On a connu comme ça des personnes qui ne veulent pas de Jésus. Jusqu'au moment où il plie les genoux devant Jésus. J'ai connu un homme qui était vraiment alcoolique. Cet homme était brillant dans son métier, un homme hors pair, compétent, extrêmement compétent, on faisait référence à lui, mais cet homme s'est laissé aller à l'alcool, il a détruit sa carrière professionnelle, mais surtout il a détruit sa famille. Il a détruit sa famille. Des années d'alcoolisme, des années. Cure de désintoxication sur cure de désintoxication, mais à chaque fois il reprenait. Médicaments, hypnose et tout ce que vous voulez, j'en passe et des meilleurs. Et puis un jour, cet homme a été mis au contact de l'Évangile. Et alors que j'étais en prière, le Seigneur me dit, « Va le trouver. Va le voir. » Je suis allé le voir. Ce matin-là, il ne répondait pas. Je suis rentré chez lui et cet homme était gisant par terre. J'ai appelé les pompiers. Mais ça a été la dernière fois que cet homme a touché à l'alcool. Après cela, il a placé sa confiance en Jésus. délivré de l'alcool instantanément après des années, avoir tout essayé, sauf l'essentiel, sauf celui qui pouvait, c'est-à-dire Jésus. Il y a un aiguillon là. Il y a un aiguillon. Il y a des personnes qui sont tenues, qui ne peuvent pas s'en sortir. Ils essayent toutes sortes de choses, mais ne veulent pas de Jésus. Vous ne pourrez pas vous débarrasser de ces mauvaises pensées. Vous ne pourrez pas vous débarrasser de ces mauvaises pratiques sans accepter le message de Jésus-Christ. Vous pourrez encore moins vous débarrasser des mauvais esprits. Jésus est celui qui est au-dessus des mauvais esprits. Alléluia. Les exorcistes, dans les Actes des Apôtres, n'ont pas pu chasser les démons. Mais Jésus, alléluia, a pu le faire. Jésus libère. Jésus guérit de la puissance des ténèbres. Jésus est celui, il y a des personnes qui sont angoissées d'une manière irrationnelle. Il y a des personnes qui sont tenues par des mauvaises pensées, mais qui viennent de mauvais esprits. Mais Jésus libère de cela. Il y a des personnes qui voient des choses bouger chez eux, etc. Ils disent que leur maison est tentée, mais j'aimerais vous dire que Jésus libère de tout cela. Il y a des personnes qui pensent que, eh bien, ils sont maudits, qu'il y a une malédiction sur eux et sur leur famille. Ils ont tout essayé, ils ont été voir des médiums, ils ont été voir des charlatans de toutes sortes, des sorciers. Mais Jésus est le seul. Ne refusez pas, rejambez pas contre les aiguillons. Ne rejambons pas contre la volonté de Dieu. Je voulais encore vous parler de Jonas et de Pierre, mais l'heure a tourné. Vous savez, Pierre, le fougueux Pierre qui va devenir ce fameux apôtre Pierre, qui a marqué l'Église des premiers temps. Pierre le fougueux, un peu prétentieux, mais le Seigneur va se servir d'un aiguillon qui va l'amener à l'humilité et à la repentance. Il va utiliser un coq. Les moyens de Dieu nous dépassent. Pierre qui pensait pouvoir aller jusqu'au bout, mourir pour Jésus, hein, qui a même fait des imprécations. Quand bien même il me faudrait mourir, je ne te renierai pas. Oui, Pierre est plein de prétentions. Et puis il va renier une première fois Jésus, puis une deuxième fois, et la troisième fois, il va même insister, il va même jurer, hein, etc. Puis là, le coq, il va chanter. Un aiguillon qui le conduit à l'humilité et à la repentance. Comment ne pas parler de Jonas qui s'est cabré à la volonté de Dieu. Et parfois, on peut se cabrer contre la volonté du Seigneur. Le prophète Jonas dans la Bible qui a reçu pour mission d'aller à Ninive pour prêcher la repentance, prêcher ce que le Seigneur a à dire à cette ville. Mais lui, il ne veut pas, il va à l'inverse. Mais vous savez, rien, on ne peut pas échapper à Dieu. Hein. On pourrait fuir, mais le Seigneur va nous trouver là où on est pour nous faire ramener là. Parce que la volonté de Dieu, elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Hein. C'est beaucoup mieux que notre rébellion, que notre résistance. Alors, puissions-nous dire maintenant, Seigneur, je t'appartiens. Alléluia. C'est ce qu'un jour a fait Jérémie. Il a accepté Jésus dans sa vie. Alléluia.